Avis d'esprit, Pierre-Yves Moret, bonjour à toutes et tous. Cette semaine, Serge Carrel dialogue avec ses invités autour de la question « Mieux communiquer pour mieux vivre ». Et aujourd'hui, les enjeux de la communication dans le couple, un lieu de vie menacé par les carences en communication. Serge Carrel, nous avons entendu hier le psychologue Jacques Salomé évoquer les relations parents-enfants. Et aujourd'hui, vous nous proposez d'aborder un autre grand dossier, la communication au sein des couples. Et votre interlocuteur est assez logiquement un conseiller conjugal.
Oui, il s'agit de Christian Reichel, qui est conseiller conjugal à Renan. Depuis quelques années, il dispense non seulement ses consultations, mais aussi des formations pour les couples dans des entreprises ou en lien avec des églises. Et dans le cadre de ces formations, une meilleure communication a bien entendu toute sa place.
Et vous lui avez demandé donc en quoi une meilleure communication pouvait favoriser un mieux vivre en couple?
Oui, et vous allez l'entendre, Christian Reichel ne manque pas de ressources, mais avant qu'il nous détaille certains aspects de l'enseignement en matière de communication, cet enseignement qu'il dispense, j'ai voulu savoir si d'après lui, on communiquait bien aujourd'hui au sein des couples.
Et c'est vrai que les couples communiquent pas très bien, c'est-à-dire qu'ils ne font pas toujours attention à prendre les précautions nécessaires pour bien communiquer, pour bien se comprendre.
Et concrètement, beaucoup de personnes qui vous consultent aujourd'hui ont des problèmes en matière de communication?
Oui, justement, précisément, ils viennent avec des problèmes dans cette dimension parce que ils se communiquent principalement dans la spontanéité. C'est-à-dire qu'ils ne font pas attention de voir que l'autre soit en phase de pouvoir écouter tel et tel commentaire, peut-être entendre quelque chose de profond ou une demande. Et cela pose évidemment des difficultés.
Et là, concrètement, vous avez mis au point une formation pour couple qui s'intitule « Redynamiser son couple ». Est-ce que, dans ce cadre-là, vous mettez un accent fort sur la dynamique de communication, sur l'apprentissage de techniques qui permettent au sein des couples de mieux communiquer?
Alors oui, effectivement, dans le cadre du cours « Redynamiser son couple », il y a un volet qui s'appelle « Mieux communiquer ». Où on va apprendre ces techniques. Bien entendu, ce n'est pas le tout, mais si les gens prennent certains réflexes et se mettent à utiliser des moyens pour mieux se comprendre, automatiquement, il va y avoir des améliorations dans le domaine de l'ambiance générale du couple, ce qui va leur permettre effectivement d'aborder des questions profondes.
Alors, est-ce que vous auriez quelques pistes comme cela qui figuraient dans ce cours et qui, quelque part, permettraient à un couple de mieux communiquer, de développer au sein du couple un meilleur climat, une meilleure ambiance?
Alors, effectivement, ce sont des techniques, certaines, enfin, je ne les ai pas inventées, je les ai reprises dans différents manuels de communication, même de communication d'entreprise. En particulier, il y a toute une série d'exercices qu'on appelle « écouter son partenaire » ou « écouter son conjoint » qui consiste à parler, à faire de la reformulation par petites doses, d'abord sur des sujets plutôt « light », on va dire, des sujets qui n'impliquent pas une grande dimension émotionnelle, puis de plus en plus vers des choses qui vont être profondes.
Vous avez aussi développé dans le cadre de ce cours des techniques d'écoute, des techniques que l'on connaît un peu de gauche et de droite, mais on peut peut-être juste parler de cette technique qui consiste à avoir un objet, à se le passer un peu comme des coureurs se passent un témoin.
Alors, effectivement, j'utilise quelquefois ce genre de choses, mais en gros, je vais plutôt, par exemple, demander au couple de faire une sculpture, comme on appelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses. C'est le fait...
Non, mais vous allez me l'expliquer.
Alors, c'est le fait, effectivement, de mimer, si vous voulez, l'attitude ou la photographie que chaque conjoint a du couple actuellement. Donc ils vont se lever, d'abord c'est l'homme qui va indiquer une position à sa femme, puis prendre une position, et en ce sens, ensuite on va analyser, on va commenter cela pour montrer justement quelquefois les difficultés de communication qui sont reflétées par la position de l'un ou de l'autre.
Et là ça permet à un couple très rapidement de voir où il y aurait quelques difficultés en matière de communication.
Oui, je dois dire même c'est quelquefois une prise de conscience très douloureuse, et ceci entraîne pas mal d'émotions.
Alors, vous avez d'autres techniques qui figurent dans ce cours, notamment le recours à des mots-codes ou à la possibilité de botter en touche, comme vous dites. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous expliquer en quoi cela consiste ?
Alors, je pars toujours du principe que le couple, c'est un peu comme un terrain de jeu, si vous voulez, un terrain de football, même avec quatre coins, donc des limites. Et puis, il y a des choses qui se passent dedans, des choses qui se passent dehors. Dans la mesure où le couple parvient, quelque part, à se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il vaudrait mieux éviter sur le moment parce que ça devient chaud, ça devient dangereux, un peu comme quand l'adversaire s'approche du but, alors je leur apprends, je leur donne des possibilités de faire sortir la balle quelques instants pour éviter justement que ça tourne mal, qu'il y ait une montée en symétrie, comme on dit dans le jargon conjugal, ou bien que ça tourne en vrille, voilà.
Et concrètement, botter en touche, dans ce contexte-là, ça se fait comment ?
Alors on va peut-être dire à la personne d'inventer quelque chose qui permet de dire à l'autre « Attention, je suis mal, je ne peux pas contenir ton agressivité » ou alors « J'aimerais qu'on en reparle plus tard », des choses comme ça. Donc c'est toute une série de codes internes qu'on va déterminer à l'intérieur du couple.
Et les codes qui permettent de freiner l'agressivité montante et quelque part d'apaiser une situation.
Alors oui, par exemple, justement, il y a des mots. Alors, je vais dire, en plaisantant un peu, si vous avez perdu 50 000 $ au casino de Monaco, vous allez dire peut-être « Monaco ». Et ça sera comme un signal donné, comme quoi il y a effectivement une situation dangereuse qui est en train de se présenter.
Et là, ces quelques techniques permettent, de manière, j'imagine, assez basique, à des couples de mieux communiquer pour mieux vivre.
Alors, ceci ne permet pas forcément de mieux communiquer, mais c'est bien de mieux freiner. Parce qu'en réalité, pour mieux communiquer, il faut d'abord freiner le conflit ou les éléments qui risquent d'être conflictuels. Ça veut dire que j'essaye de leur donner des possibilités de ne pas forcément entrer en matière tout de suite, comme on dit « hic et nunc », ici et maintenant, parce que peut-être ils ne sont pas en phase de le faire. Alors, pour cela, il faut d'abord, j'allais dire, ralentir le jeu, puis ensuite que le couple puisse prendre en quelque sorte rendez-vous et puis pouvoir communiquer dans des conditions acceptables.
Christian Reichel, dans votre cours, vous mentionnez le nom d'un conseiller conjugal qui s'appelle Gary Chapman, qui est américain, qui a publié un ouvrage qui connaît un succès tout à fait phénoménal en matière de réflexion sur les couples. Ce livre s'appelle « Le langage de l'amour ». Alors, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire ce qu'apporte d'original ce conseiller conjugal ?
Alors c'est vrai que Gary Chapman, qui a écrit dans le domaine du couple mais aussi de la famille, présente de façon relativement simple mais abordable 5 concepts ou 5 niveaux de communication qui sont des possibilités de découverte de l'un sur l'autre. Alors je cite...
Est-ce que vous pourriez juste justement détailler un petit peu ces différentes formes de langage ? Je crois que c'est le terme qu'il utilise.
Alors, la première forme est bien sûr toute la question verbale, c'est-à-dire les paroles d'encouragement, les mots sympathiques, les mots qui vont valoriser tout ce qu'on peut faire passer par la bouche. Et puis d'autre part, les gestes de tendresse, les gestes d'affection, les câlins, enfin voilà, ce genre de choses. Puis nous passons ensuite aux cadeaux, petits et grands cadeaux que l'on peut se faire au cours d'une journée, d'un week-end ou je ne sais. Ensuite, nous allons vers les services rendus, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour l'autre dans un contexte de tâches ménagères, entre autres. Et puis, on va terminer avec le temps consacré à l'autre, c'est-à-dire pas seulement la quantité, mais aussi la qualité du moment que je vais passer avec l'autre.
Et la thèse de Gary Chapman, c'est de dire que chaque membre du couple serait, à un certain moment de sa vie, particulièrement sensible à un de ces langages de l'amour, comme il l'appelle.
Oui, alors ce n'est pas exclusif, mais en réalité, chaque conjoint va à un moment donné éprouver plus de plaisir à recevoir un cadeau qu'une parole affectueuse, par exemple. Et donc, en réalité, quand on fait cet exercice avec les couples, on essaie de proposer de découvrir ou de deviner le domaine où actuellement le conjoint qui est en face est le plus sensible.
Et là, vous avez l'impression que du point de vue de l'accompagnement des couples, c'est une manière d'aborder les choses qui permet d'aller plus loin, qui permet une prise de conscience ?
Alors oui, dans un premier temps, sans vouloir rester exclusivement croché à ces choses, ça permet simplement déjà de s'ouvrir à la réalité de l'autre, et puis ensuite, dans un deuxième temps, de poser ce qu'on appelle les niveaux de communication, c'est-à-dire que si on est particulièrement sensible sur un point, on a besoin d'être rejoint dans ce domaine-là.
Souvent, certains conjoints ont quelque part de la peine à rejoindre l'autre sur ce niveau de communication-là.
Évidemment, parce qu'en principe, on donne ce qu'on a envie de recevoir. Donc, ça signifie que si j'ai envie de recevoir des paroles affectueuses ou des mots valorisants, eh bien, je vais avoir tendance de le faire pour l'autre.
Par rapport à cette dynamique d'accompagnement, vous auriez, en tant que thérapeute, certaines réserves ?
Oui, la petite réserve que j'ai quand même, c'est que c'est bien joli de connaître le domaine de prédilection de l'autre, mais une fois qu'on l'a connu, comment est-ce qu'on le traite ? Et du coup, ça fait qu'il y a un petit risque de manipulation. Autrement dit, si madame a dit « voilà, je serai sensible une fois à ce que tu m'apportes un bouquet de fleurs », peut-être que monsieur va rapporter un bouquet de fleurs, mais madame va penser « c'est parce que je le lui ai demandé », et monsieur va peut-être penser « bah tiens, tu l'as voulu ton bouquet, tu l'as ».
Donc finalement, il n'y a pas véritablement rencontre, il n'y a pas meilleure communication, mais plutôt échange de bons offices qui font que peut-être... De manière un peu ponctuelle, le couple ira mieux, mais aucun travail en profondeur ne sera entrepris.
Oui, c'est cela, en effet. Je pense que le travail en profondeur doit suivre cette démarche. En réalité, ce qu'on fait avec cette démarche, ce n'est que rendre sensible un conjoint à ce que vit l'autre. Mais si ça s'arrêtait juste à ces cinq langages, ce serait un peu pauvre.
Rachel, quand un couple vient chez vous, c'est qu'il y a problème, alors il peut y avoir conflit, mais on peut dire en tout cas que souvent il y a un problème en matière de communication. Alors, comment est-ce que vous y prenez pour quelque part permettre à chacun des conjoints de renouer la dynamique conjugale, de reprendre la communication ?
Alors déjà, bien sûr, on va vérifier que c'est possible d'un peu communiquer, c'est-à-dire de permettre à l'un et l'autre de bien parler en étant écouté par l'autre. Ce qui fait que je vais donner la parole successivement à l'un et à l'autre en demandant qu'il ne soit pas ou qu'elle ne soit pas interrompue. Ça, c'est une première chose. Dans un premier temps, donc, on va essayer de consigner l'aspect conflictuel et lui donner ces clés dont j'ai parlé quelques instants avant. Maintenant, bien sûr, que petit à petit, il faudra vérifier si les gens sont capables d'aborder des choses difficiles de manière raisonnable.
Oui, là, au niveau du dialogue concret, vous essayez de choisir un sujet, un thème qui soit le moins conflictuel possible dans un premier temps.
Voilà, exactement, parce que si on commence avec quelque chose de très chaud, il y a bien à parier que même avec des outils de communication, le couple ne parviendra pas à aller jusqu'au bout du dialogue.
Donc là, vous permettez quelque part à un couple de reconstruire un minimum de communication autour d'un sujet non conflictuel. Puis une fois qu'il y a un peu de la confiance qui s'est installée, on peut aller peut-être un petit peu plus loin.
Exactement, c'est-à-dire qu'on va vérifier chaque fois, d'une fois à l'autre d'ailleurs, où on est le niveau affectif. C'est-à-dire, je compare quelquefois le couple à un vase affectif plus ou moins rempli. Si le vase est assez rempli, on va pouvoir aborder certaines thématiques plus difficiles.
Et s'il est vide ?
Alors, vous commencez par le remplir en abordant des choses plutôt faciles pour redonner confiance au couple, précisément.
Dans votre cours, Christian Reichel, Redynamiser son couple, vous évoquez là, en matière de communication, les conditions cadres d'un dialogue acceptable. Alors, ça paraît un peu abstrait comme formulation. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par là ?
Alors, je vais proposer, bien sûr, une sorte de système de communication basé en particulier sur un double concept que j'ai appelé le concept travail et bonus.
Et là, le concept travail et bonus, ça consiste en quoi ?
Alors, en fait, je vais reprendre l'idée du terrain de football ou du terrain rectangulaire avec quatre coins. En gros, je propose les trois unités de la tragédie grecque, ce qu'on appelle la règle des trois unités, c'est-à-dire un lieu, un moment, un sujet. Et j'y ajoute l'auto-arbitrage.
Alors, je m'excuse d'être très concret et de vouloir vous demander une illustration un peu pratique. Vous auriez une histoire qui, ou une histoire de couple qui nous permette de mieux mesurer en quoi cette unité de temps, de lieu, d'espace permet véritablement à un couple d'entrer dans une meilleure communication?
Alors en réalité, justement, je vais un peu lutter contre la spontanéité, c'est-à-dire d'arriver à n'importe quel moment avec un gros sujet, peut-être même un sujet conflictuel. Et je vais proposer au couple donc de choisir un lieu. Si c'est pour le travail, ça sera immanquablement la cuisine. Pourquoi ? Parce qu'en général, dans une cuisine, on n'est pas très bien assis. Ensuite, un moment. Et je vais leur proposer, si possible, un moment style de 8h à 8h30 du soir, pas plus qu'une demi-heure, parce qu'il faut que le couple soit assez costaud au niveau communication, et un seul sujet. Ça veut dire que si on veut parler de finances, on parlera de finances, mais pas encore des enfants, de la belle-mère et du frigo qu'il faut remplir. Et puis finalement, l'auto-arbitrage, ça sera simplement la possibilité pour chaque conjoint de lever le carton jaune ou le carton blanc, si vous préférez.
Ou rouge.
Ou rouge, effectivement, pour dire stop, on a dérapé, on est hors de la cible, maintenant il faut qu'on arrête et peut-être reprendre rendez-vous pour dans 2 jours.
Donc là, c'était le cadre autour de ce thème du travail, mais vous avez un autre cadre que vous définissez en appelant ça bonus ou moment exclusivement agréable. Alors, en quoi est-ce que ça consiste, cela ?
Alors effectivement, avec les quatre piliers de nouveau, ou les quatre coins, mais cette fois-ci, évidemment, le lieu sera cherché en premier, par exemple un délicieux petit restaurant, et puis le moment, ça durera pas une demi-heure, si possible, mais au moins 2 heures. Quant au sujet, interdiction d'échanger de mauvaises nouvelles. Donc tout sujet de travail ou tout sujet conflictuel est banni, sinon ça mettrait ce moment de bonus en un horrible traquenard. Et puis enfin, l'auto-arbitrage, c'est-à-dire quand on commence à se faire la tête, à ce moment-là, il y en a un qui dit stop, on arrête, on repart dans les bonnes choses.
Et là, concrètement, dans une dynamique conjugale, qu'est-ce que ça apporte en matière de communication, le fait de se fixer des lieux, des moments où on parle de choses difficiles et d'autres où on parle de choses beaucoup plus agréables ?
Alors, en réalité, c'est un moyen un peu détourné pour dire qu'on va avoir de nouveau des rendez-vous. Parce que finalement, j'ai remarqué que beaucoup de couples ne prennent plus rendez-vous, ne font plus attention, il n'y a plus d'égards qui sont pris l'un par rapport à l'autre. Alors du coup, ça touche aussi la communication, mais ça touche des choses profondes. Ça touche finalement à l'attention que l'on porte à la personnalité et au vécu de l'autre. Ce moyen, ce petit moyen en tout cas, permet une certaine efficacité.
Christian Reichel, lorsque vous avez l'occasion de donner un peu ces pistes de gestion de la communication, est-ce que vous avez l'impression que le plus gros du travail est fait, ou bien finalement on en reste à la surface des choses et il faut encore tout un travail en aval pour arriver quelque part à permettre à un couple de revivre ou de renaître?
Alors bien sûr, c'est quand même le début d'un processus. Et dans ce sens-là, j'aime l'idée du processus parce que ça veut dire que le couple doit commencer un chemin, retrouver un chemin nouveau, ou alors si vous préférez essayer de trouver des ponts, ça c'est une autre possibilité, mais en quelque sorte ces choses-là ne peuvent se faire que quand un certain degré de communication est rétabli.
Est-ce qu'il y aurait des étapes dans ce processus, des étapes par lesquelles il faudrait passer ?
Alors, il y en a deux. D'abord, au niveau de la communication, quand dans un couple, on est capable tout d'un coup de reformuler un peu ou de dire « je comprends que l'autre est en train de vivre ceci ou cela », alors j'allais dire « il y a quelque chose de gagné ». Ça veut dire que le couple est de nouveau en phase communicative et ça va lui permettre d'aborder alors des sujets assez corsés, voire même conflictuels, là où les valeurs sont pas les mêmes, ou alors encore on est en conflit depuis pas mal de temps.
Donc ça c'est la première étape, et puis la deuxième ?
Alors la deuxième, bien sûr, c'est de pouvoir aborder ces choses petit à petit, j'allais dire déjà dans une phase thérapeutique, et puis qu'ensuite le couple puisse le faire seul à la maison. Quand je remarque quand même que certains de ces sujets sont traités correctement à la maison, alors ça veut dire que le processus est enclenché.
Et que finalement, vous pouvez dire au revoir à ce couple.
Alors, en réalité, je dis assez rapidement au revoir à ce couple parce que, je vais donner une image, c'est comme s'il y avait la roue de la locomotrice d'un petit chemin de fer de montagne qui a enclenché sa crémaillère. Et donc, voilà, la roue dentée est prise dans la crémaillère et on sent le petit chemin de fer qui est en train de grimper la pente. Là, à mon avis, ils n'ont plus besoin du thérapeute.
Christian Reichel, lorsqu'on vous entend parler communication, on a l'impression que votre but ultime, c'est d'intensifier la communication entre les membres d'un couple.
Alors oui, intensifier la communication, on peut le dire. Moi, j'oserais même plutôt parler de communion que de communication. Ça sera donc un aspect, la communication sera un aspect de la communion. Et pour cela, je m'imagine, à l'aide en particulier d'un petit concept, d'un petit schéma, que chaque membre du couple va comme rejoindre l'autre au sein d'un creuset qui serait comme ça, tout près du sol, tout près de la terre. Un creuset où finalement le couple ne serait pas en train de se parler par porte-voix de deux falaises opposées, mais ensemble dans la même vallée.
Et comment est-ce qu'on parvient justement à quitter cette surface de communication pour aller dans cette communion? Quel est le travail qui est nécessaire pour parvenir à cela?
Alors, dans un premier temps, bien sûr, un certain nombre d'éléments de comportementalisme dont font partie les exercices d'écoute et autres choses dont nous avons parlé. Et puis, bien sûr, dans un deuxième temps, cette capacité de parvenir à se mettre à la place de l'autre, à le comprendre, à l'entendre pleurer ou gémir ou avoir peut-être un moment de compassion, un moment de solidarité, comme on pourrait dire, avec son conjoint. À ce moment-là, quand cette étape est vécu, je peux dire que le couple est sur la bonne voie.
Et là, ce sont des choses qui se passent lorsque vous accueillez des couples en thérapie.
Alors pas toujours, quelquefois cette affaire-là arrive chez eux, mais bien sûr si j'ai le privilège de voir tout d'un coup un homme ou une femme s'émouvoir ou découvrir en quelque sorte la difficulté que vit l'autre, je me dis que c'est quelque chose qui est gagné et à ce moment-là ils vont commencer à tirer à la même corde ensemble et non pas en train de tirer sur la même corde mais de deux pôles opposés.
Est-ce que vous diriez que lorsque on a atteint ce degré de communion entre deux êtres au sein du couple, c'est peut-être là que des formules de pardon peuvent être échangées par rapport à des blessures, par rapport à des événements douloureux qui ont été vécus par le couple?
Oui. Si j'évite en général de parler de pardon au début d'une démarche thérapeutique pour le couple, parce qu'en réalité, ils ne sont pas en phase de pouvoir se demander pardon ou de pouvoir s'accorder le pardon. À la fin de tout ce chemin, et quand on voit poindre d'autres sentiments, d'autres capacités de réception chez l'un et chez l'autre, une démarche de pardon demandé ou de pardon accordé aura tout son sens. À ce moment-là, si c'est possible, je le leur propose, ou quelquefois c'est eux-mêmes qui vont faire cette démarche par eux-mêmes.
Christian Reichel, là, lorsque vous parlez de pardon, est-ce que ça rejoint des valeurs qui vous apparaissent comme fondamentales ?
Alors oui, personnellement, je pense que le pardon fait partie de toute une approche chrétienne de non seulement de la communication, mais de la relation. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Donc si on peut le vivre à l'intérieur d'un processus de restauration du couple, tant mieux. J'en suis content. Je ne vais pas forcer la chose. Et puis je précise aussi que d'autre part, il y a des couples qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que les miennes, qui vont elle-même aboutir aussi à cette notion de pardon. Donc finalement, c'est quelque chose qui touche l'homme d'une façon générale.
Christian Reichel, cette série d'émissions s'intitule « Mieux communiquer pour mieux vivre ». Si vous avez l'impression que dans le cadre du couple, permettre à chaque membre d'un couple de gagner en capacité de communication, c'est quelque part un secret pour améliorer la vie conjugale, pour améliorer un meilleur vécu au sein des couples et des familles.
Je ne sais pas s'il faut parler de moyens. J'ai plutôt l'impression que quelquefois la communication, c'est comme une sorte de baromètre qui permet d'évaluer là où on en est affectivement, relationnellement, peut-être même rationnellement dans l'équilibre du couple. Donc bien sûr, si la communication est bonne, je pense que c'est un bon symptôme d'un couple qui est plutôt en bonne santé. Je m'excuse du pléonasme, mais il me semble que c'est bien ça. Maintenant, c'est vrai que si on commence à avoir quelques tiraillements, ça veut dire que c'est peut-être le moment effectivement de s'occuper un peu du couple et d'aller faire un petit service.
Auprès d'un thérapeute comme vous, par exemple.
Mais oui, par exemple, ça serait pas mal. C'est préférable d'ailleurs de faire de la prévention que d'attendre le dernier moment où on est là en train de se demander si ça va tenir le coup encore longtemps.
C'est donc là une réalité qui arrive assez souvent, c'est que finalement, les gens ont recours à vos services un peu en guise de bouée de sauvetage, alors que vous-même, vous préféreriez accompagner des gens avant, lorsque la situation est peut-être pas aussi catastrophique qu'elle y paraît lorsque les couples aujourd'hui viennent vous consulter.
Oui, alors effectivement, malheureusement, les gens attendent beaucoup trop longtemps et justement, la question de la communication va leur donner le signal que maintenant, c'est le moment. Seulement, dans leur évaluation, ils attendent souvent trop longtemps.
Christian Reichel était votre invité aujourd'hui, Serge Carrel, dans le cadre de cette série d'émissions autour de « Mieux communiquer pour mieux vivre ».
Et rappelons que Christian Reichel est conseiller conjugal à Renan, qu'il dispense toutes sortes de formations dans différents milieux, dans des associations, des entreprises ou dans des églises. Et l'un de ses cours s'intitule « Revitaliser son couple ». Alors pour plus d'informations à ce propos, il est possible de visiter le site de Christian Reichel, www.antenne-couple.ch, une adresse qui est bien entendu disponible sur la page web de notre émission.
Et cette page web s'intitule religion.rsr.ch. Vous y trouverez de nombreuses informations et vous pouvez également réécouter ces émissions par téléchargement ou podcast religion.rsr.ch. Demain, Serge, avec qui est-ce que nous allons encore décliner ce thème « Mieux communiquer pour mieux vivre » ?
Alors nous recevrons un aumônier convaincu du fait que Jésus de Nazareth peut renouveler aujourd'hui, au XXIe siècle, notre manière de communiquer. Il s'agit de Thierry Lenoir et il est aumônier à la clinique de la Linière à Gland.
Merci Serge Carrel, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Jérôme Nussbaum, Gérald Diestan signent la réalisation de cette série avec Patrick Lenoir également. Entre les lignes vous attend juste après les informations. Bonne journée à l'écoute d'Espace 2 et à demain. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.